Il est 6h40 sur France Culture. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Jacques, cette question, l'Europe serait-elle en crise ?
Oui, oui. Alors vous avez remarqué, Clara, dès qu'une crise politique, en ce moment, on est servi, secoue l'un de ses pays membres, eh bien la question de l'Europe revient à l'ordre du jour. Voilà, donc c'est une évolution intéressante à analyser. Merci Clara Lecoq-Réal. On vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
Le journal des idées, Jacques Meunier.
Montée de l'extrême droite, même en Allemagne, existence de régimes autoritaires à l'est de l'Europe, alliance hétéroclite au pouvoir en Italie, incertitude politique en Espagne. À chaque nouvelle crise, on s'inquiète des répercussions sur l'Europe, ce qui dénote au fond un souci nouveau, subrepticement passé dans les mentalités et révélateur de la formation d'une conscience commune, sans doute bien davantage que la référence à des valeurs abstraites, soi-disant partagées. C'est ce que veut retenir le philosophe Peter Sloterdijk dans le grand entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point. Devant ces phases de désorganisation, d'incohérence, de départicipation à ce qui les entoure et même de décomposition qui affecte certains États membres de l'Union européenne, il faut selon lui raison garder et se rappeler d'où est partie cette Europe qui reste encore une énigme du point de vue politique et culturel et au départ une association de perdants, d'empires humiliés, de nations défaites. En 1945, ce n'était pas seulement à l'Allemagne d'assumer sa catastrophe. Toute la famille des nations européennes a été, dans les années qui ont suivi, concernée par l'échec, notamment par la perte des colonies. La France, à elle seule, en a perdu 14 en 1960, la fameuse année de l'Afrique. Sans compter à l'Est, tous les pays vampirisés par le soviétisme, ou la Grèce, qui a connu le joug ottoman pendant des siècles, puis des années de dictature, et enfin la crise économique qui l'a rendue exsangue. Pour le philosophe, l'Europe est un club d'humiliés qui humilie en retour tous ceux qui voudraient en faire partie ou au moins y prendre un verre de temps en temps, comme la Turquie ou la Russie, traités avec une suspicion d'ailleurs justifiée parce qu'ils avaient choisi d'affecter des attitudes néo-héroïques, néo-impériales, néo-impertinentes, pas du tout dans le ton, disons même le dress code du club européen. Et donc, plus qu'une communauté de valeurs reposant sur un esprit européen ou sur l'idée d'une construction de la paix, l'Europe est la communauté des États qui ont compris plus ou moins explicitement qu'ils n'incarneraient plus jamais le centre de gravité du pouvoir mondial, d'où l'importance historique et politique de la maison commune. Il suffit d'étudier les échanges commerciaux intracommunautaires, souligne Sloterdijk, pour comprendre que l'Europe est devenue notre patrie et le fracas du monde ne peut que renforcer ce sentiment. N'en déplaise aux populistes de tout poil dont le philosophe dénonce la frivolité coupable. Le système, en général, le système parlementaire, c'est la démocratie sans le peuple. Le populisme, c'est le plus souvent le peuple sans la démocratie, résume Jacques Julliard dans le Figaro Vox. Une fois parvenu aux commandes, le populisme s'empresse de couper les ponts avec le peuple, supprimer les corps intermédiaires, nuire à la séparation des pouvoirs, bâillonner la presse. Les Italiens devraient s'en souvenir. L'historien rappelle aussi qu'en régime populiste, le dogme de l'infaillibilité populaire exige, quand les choses vont mal, la désignation d'un bouc émissaire. Et aujourd'hui, ce sont les institutions européennes qui jouent ce rôle, ainsi que l'immigration, souvent imputée aux premières. Dénonçant lui aussi la pusillanimité et les passions tristes agitées par le populisme, il cite Gérard Carsanti dans la dernière livraison de la revue Commentaire. Il semble que les hommes s'ennuient et cherchent à provoquer des catastrophes économiques et politiques afin de se redonner une identité, une raison pour vivre et pour mourir. Qui a vraiment besoin du Brexit, de la Catalogne indépendante ou de Donald Trump comme président des États-Unis ? Pour Jacques Julliard, depuis 10 ans, au moins, l'Europe politique n'avance plus, elle recule. Son élargissement à marche forcée a été la source de son impuissance. Son identification à un libéralisme économique forcené, conséquence inévitable de son excessive pluralité, l'a affaibli par rapport à ses grands concurrents, États-Unis et Chine. Et il en appelle à un retour à l'ambition initiale lorsque Robert Schuman, dans son discours historique du 9 mai 1950, proposa la constitution d'un pool charbon-acier, matrice de l'Europe future. une Europe à deux, la solution semble singulièrement étriquée et fondamentalement non européenne. Dans la revue Commentaire, qui fête son 40e anniversaire, Jean-Claude Casanova et Béatrice Dedinger abordent la question sous l'angle de la démographie. Les projections à 2055 ne sont pas à l'avantage du vieux continent. S'il est vrai, selon la formule prêtée par Goethe à Napoléon, que le destin aujourd'hui c'est la politique et la politique c'est la démographie, l'Europe de la zone euro ne devrait représenter qu'une proportion de la population mondiale à peu près égale à celle de la France de 1800, soit 3,5%, raison de plus pour se rassembler.